La musique est de retour.
Salut à tous et salut à toutes.
Oh.
Bienvenue à ce Musicorama assez génial.
Vous allez pouvoir
voir. Oh, ok, vous ne faites pas d'erreur. Vous êtes bien connecté sur la radio sans concession.
Now in darkness, world stops turning. Ashes where the body's burning.
L'attitude actuelle commence à me polluer.
Alors ce soir c'est du 3 en 1 puisque je vais vous parler de 3 lieux, 3 expositions différentes. La plupart sur Arras, mais il y en aura un dans la Somme, puisque Mireille Desideri, qui est là dans les studios, expose à Bocquen dans la Somme. Bonjour à tous déjà. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Bonjour Aphili.
Bonjour.
Et bonjour Angèle, voilà, c'est ça. Bonjour Angèle. Alors Angèle et Aphélie, vous êtes étudiantes en Master 2 en expographie et muséographie. Alors c'est pour expliquer un peu à ceux qui ne sont pas communs de la fac, c'est quoi en langage courant tout ça ?
Vas-y, commence Angèle.
Alors, la muséographie et l'expographie, c'est le fait de concevoir des expositions. Tout d'abord, c'est une question de propos, c'est de la recherche de contenu, c'est de la recherche scientifique, et ensuite, c'est la retransmettre sous forme d'exposition à nos visiteurs et visiteuses. Et c'est à la fois donc cette recherche-ci, et aussi parfois du management de projet. Voilà, faire travailler des prestataires, des scénographes, des graphistes, et organiser toute une programmation autour des expositions.
Donc, en fait, c'est avoir un propos à Félix, donc faire des recherches sur le contenu et après des recherches aussi sur la forme, en fait. Comment tu vois ça ?
Oui, alors en fait, ce qu'on essaye vraiment d'élaborer, c'est à partir d'un contenu, d'un sujet, créer un synopsis d'exposition, donc essayer de raconter une histoire. Et cette histoire, suivant la taille du projet, on peut même endosser du coup la carrière du scénographe et essayer de donner une vraie image et un vrai visuel à ces expositions. Et donc on essaye de les rendre vivantes par des manipulations, par du texte, par du son. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de travailler et mettre en avant, rendre les musées vivants.
Alors, dans l'exposition qu'il y a, donc, c'est à l'hôtel de Guines d'Arras, ça sera encore valable ce week-end jusqu'au dimanche 3 octobre, on a trois grandes thématiques qui regroupent ces 21 mini-expositions. On a une histoire derrière l'objet, on a un rapport à soi et un rapport au monde, et on a l'intime et politique. Et donc, Aphélie, ton exposition, c'est trop plein. Sommes-nous trop sur cette planète ? Est-ce que le nombre d'individus sur la Terre est un problème ? La population évolue de manière exponentielle depuis l'industrialisation du 19e siècle. Quand sera le point de chute ? Qui en paiera les frais en premier ? Donc ça, c'est le lancement pour présenter ton expose. Pour visuellement, pour que les auditeurs voient, c'est un amoncellement de petits cubes qui font passer évidemment des gratte-ciels. Et donc, il y a très peu de texte. Et c'est une ambiance colorée et un peu chaotique. On voit urbaine et t'empares de l'ensemble de ce petit espace, donc ta mini-exposition. Et comment tu as appréhendé cette thématique du trop-plein, du surpeuplement planétaire?
Alors, j'ai voulu un peu jouer sur tout ce qui était un peu la dystopie, tout ce qui était les films sur la science-fiction qui font un peu peur. Et donc, j'ai voulu vraiment m'inspirer de ça et de ces grands gratte-ciel qui tombent, qui sont un peu en déséquilibre. Du coup, que j'ai essayé de faire transparaître dans mon exposition. J'avais aussi envie d'avoir un impact écologique le moindre possible. Donc j'ai fait que de la récup, donc tout est fait en carton et après a été peint derrière, et j'ai essayé donc de créer 3 tours, et dans ces 3 tours on peut trouver les différents dispositifs qui parlent de la surpopulation. Donc il y en a 5, un qui est plus théorique sur la transition démographique, un autre sur avec une balance et une manipulation avec des personnages différents.
Ah oui, alors c'est intéressant. Il y a des comment fonctionner comme ça des gens, des Européens riches ou des Africains pauvres, et donc ils sont plus ou moins rembourrés de petits grains, donc ils sont plus ou moins lourds. Ouais. Et donc on peut dire que telle population équivaut à un blanc riche, en tout cas pour équilibrer le surpeuplement au niveau de la consommation mondiale. Quoi.
Ouais. C'est pour essayer de faire comprendre que c'est, l'individu a un impact plus écologique que question de quantité. Voilà. Donc c'était remettre un peu ce rapport socio-économique quand on parle de surpopulation. J'ai aussi travaillé un peu voir l'idée mondiale, donc en effet avec les politiques démographiques qui ont été mises en place. Et j'ai aussi créé donc un mutoscope, donc c'est l'ancêtre un peu du cinéma, c'est un flipbook mécanique, donc il y a des pages qui tournent, c'était pour engager un peu le visiteur là aussi, et pour là j'ai vraiment essayé de faire en sorte que si on ne lit pas les textes, on essaie de comprendre quand même, on peut comprendre ce qui se passe derrière, donc on voit plein de petits bonhommes qui apparaissent, et puis un grand nuage qui les
engage. C'est ça, c'est une espèce de flipbook qu'on peut manipuler, hein, mm-hmm. qui fait défiler des espèces d'estampes, des silhouettes de personnes qui s'accumulent, donc c'est un peu une vision poétique du surpeuplement que je trouvais assez jolie et donc il y a aussi un troisième tour où on entend des sons et un texte qui est récité et autour d'un bocal avec de la terre et de l'herbe comme un terrarium, alors voilà, qu'est-ce que c'est exactement. Cet espace-là de sons?
Alors cet espace-là, donc, c'est un ami à moi, Jérémy Leroche et Quentin Davot. Donc, Jérémy a écrit le texte, un poème inspiré de mon exposition et Quentin le lit. C'est un poème qu'il a écrit qui essaye de reprendre toutes les thématiques dont je parle, aussi un côté historique et essayer de voir un peu un côté positif dans l'avenir par rapport à cette question de surpopulation. Et j'ai repris l'idée d'un terrarium pour représenter un espace fini qui est notre terre avec des ressources limitées. Et qu'est-ce qui se passerait si quelque chose, une plante, un animal à l'intérieur de ce terrarium commencerait à envahir tout l'espace?
Alors, il y a une autre exposition qui s'appelle Un poil féministe, n'est-ce pas, Angèle? Et donc, qui est très graphique. Même, tu m'avais dit qu'il utilise les codes graphiques, mêmes couleurs que TikTok, qui est un réseau social qui parle particulièrement aux jeunes. Et donc, j'avais trouvé ça assez fin dans la façon d'utiliser les codes pour parler aux jeunes. Et donc, qu'est-ce que c'est cette histoire de poil et de féminisme? Tu es que partie de quoi pour cette exposition salle de bain, on va dire?
Alors, dans cette exposition salle de bain, effectivement, il y a un travail graphique qui est excellent. C'est le travail graphique de Marion Lenivet, une graphiste illustratrice qui est à son compte. Et elle s'appelle Nest Design Graphique, son entreprise. Pourquoi les poils? Parce qu'en fait, c'est une question toujours très actuelle qui nous concerne tous et toutes. Et du coup, je me suis dit, mais c'est les poils et c'est surtout l'épilation, ce qui ne s'entend pas nécessairement dans le titre. Mais en fait, c'est vraiment une exposition qui explique les mécanismes de l'épilation, les raisons pour lesquelles aujourd'hui une femme, parce que ça parle de femme au sens, pas uniquement au sens cisgenre du terme, hein, on représente dans cette exposition toutes les personnes associées au genre féminin. Et en fait, on questionne justement cette injonction, parce que c'est le mot, c'est une obligation à l'épilation pour être pris en compte dans l'espace social des individus.
Il y a un travail aussi sur l'histoire, hein, où tu remontes à l'Antiquité, pour
Exactement.
Voir qu'il y a, finalement, il y avait à peu près les mêmes codes, même s'ils étaient parfois inversés. C'est intéressant, l'Antiquité, par exemple, tu m'avais expliqué des choses. Qu'est-ce qui se passe en Antiquité par rapport au rapport au poil et à l'épilation?
Alors en fait, l'épilation dans l'Antiquité, c'était une épilation qui représentait une richesse, qui représentait une aisance, qui représentait une pureté, en fait. L'épilation, c'était l'intégralité des corps, masculin comme féminin, et c'était le pouvoir. Et par exemple, c'est quelque chose qui a changé dans le temps, notamment par rapport à la barbe. Finalement, le pouvoir, c'est quelque chose qui s'est très vite associé au genre masculin. Et c'est pour cette raison, en fait, d'où découle la tradition de l'épilation féminine. C'est parce qu'en fait, à travers l'histoire, les femmes n'avaient pas le droit au pouvoir. Et en fait, l'épilation, à un moment, ça a été cette réponse-là. Et ça fait partie effectivement du premier mécanisme de l'injonction. Donc c'est le côté traditionnel, l'héritage de l'épilation. Et il y a deux autres parties. Donc c'est la partie sur l'appui scientifique, où là, je décris les raisons scientifiques, soi-disant, de l'épilation. Et je contrebalance avec d'autres réalités scientifiques, cette fois, si moins pernicieuses mauvaise pour les poils et pour les corps des femmes. Et le dernier mécanisme, c'est le matraquage, c'est la publicité, les médias, les instances de socialisation. Et cette exposition répond à cette question, est-ce que je m'épile pour moi ou pour les autres ?
Et ce qui est intéressant, c'est dans la mise en place de ces petits dispositifs, tu as même mis à contribution ton papa pour la structure de cette pseudo salle de bain, mais avec des éléments de réelle salle de bain. Mm-hmm. Et explique comment tu as créé un partenariat ou comment ça s'est passé avec l'entreprise.
En fait, donc c'est une exposition qui prend vraiment place dans ce qui ressemble à une salle de bain contemporaine, avec une douche, un lavabo, un miroir de salle de bain. C'est une exposition dans laquelle on circule et ça a été créé notamment grâce à l'entreprise Pavant, qui est une entreprise du sud de la France, à Cahors et à Montauban, qui ont eu la générosité de me donner le bac à douche et le lavabo, qui est un lavabo super design.
Alors l'ambiance pop est vraiment réussie, ça parle, je suis sûr, à un public même jeune, je trouve ça très bien. Vraiment, félicitations à vous deux, parce que c'est vraiment intéressant la manière dont vous avez traité votre sujet, le mettre en espace, et c'est vraiment du beau travail, et d'avoir convoqué les bonnes personnes, et c'est vraiment intéressant. Vous avez 21 mini-expositions comme ça à l'hôtel de Guine, et ça va durer tout le week-end, profitez-en pour y aller. Et évidemment, j'ai aussi Mireille Desideri qui est avec nous et qui, du collectif Arzimut, qui vient m'a parlé de l'exposition virtuelle, et j'en ai vu un petit bout jusqu'à avant qu'on prenne l'antenne. C'est possible, sur la page Facebook d'Arzimut, vous avez un lien pour aller directement cette exposition qui a été faite, donc installée et après mise en numérisée par David Penet. Comment c'est parti cette exposition pendant le patrimoine ?
Bien, en fait, on fait deux expositions par an. L'association Arzimut fait en général deux expositions, une pour les journées du patrimoine et une pendant les journées des métiers d'art. Et nous n'avons pas pu faire celle d'avril parce que le Covid nous en empêchait
beaucoup de gens ont été empêchés.
Voilà. Ouais. Et donc, on a repris les œuvres qui était prévu pour celle d'avril. Et on a quand même réussi à s'accorder au titre et au thème des journées du patrimoine de cette année, qui était « Patrimoine pour tous ». Donc on a appelé notre expo « Viens y voir », d'une manière un peu populaire et d'une manière aussi de faire appel à tout le monde, quoi. Voilà. Cet appel qui a à la fois du patois et à la fois de l'argot, enfin bref, enfin un petit truc assez populaire.
C'est populaire, quoi. Ça parle à terre tous.
Voilà. D'ailleurs, dans notre affiche, on avait mis dans toutes les langues « Viens y voir ».
Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et alors, évidemment, Mireille, tu es connue par ta vitrine qui depuis plus de 15 ans, d'ailleurs, au 46 rue Baudimont, permet de diffuser de l'art contemporain. Et là, actuellement, tu exposes Marcel Lubac, une œuvre de Marcel Lubac dans ta vitrine. Et donc, ce jusque quelle date ?
Je pense que ça va durer, je crois que sur le flyer on avait mis le 23 octobre, mais ça peut durer un tout petit peu plus. Bon. Et donc en général c'est une œuvre pendant un an, un mois et demi.
C'est voilà. Ça.
Oui. Et donc là c'est une œuvre, c'est une œuvre en volume qui est composée, qui est une élévation. D'après l'artiste, c'est-à-dire qu'il a posé trois éléments successifs qui sont très colorés et qui sont en céramique. Donc c'est quelque chose d'assez lourd et difficile à déplacer. Et donc c'est une érection, quoi. C'est une érection dans l'espace et dans la hauteur.
Et alors, je change de conversation parce que ton actualité est très riche, parce que tu contribues à une exposition collective dans la Somme à Bocken, donc c'est proche de Doulan, et donc ça c'est l'association Culture à la Ferme qui fait ça, la 14e édition, sur le thème du paysage, et donc ils t'ont choisi parce que tu travailles sur les marnières, on a déjà expliqué que c'est beaucoup dessiné, peut-être photographié ou en tout cas peint ces amas de silex dans le ternois. Mmh. Et donc tu as ce polyptyque qu'on a déjà vu sur Arras, mais qui sera possible de voir dans cette ferme du côté de Doulan. Hein. Donc ça c'est ce week-end, mais aussi le week-end prochain, voilà. Puisque c'est jusque on sera le combien, je ne sais plus.
Ouais. Jusqu'au 10.
Jusqu'au 10 octobre, voilà, dimanche 10. Donc c'est visible à la fois le samedi, le vendredi, samedi, dimanche, de 15h à 19h. Et Boken, c'est pas loin de Doulan et c'est à 45 minutes au sud d'Arras de voiture. Ça vaut le coup. Je vais citer quand même tous les artistes qui sont dans ce collectif. Martine et Vincent Blary, Jérôme Cognier, Jean-François Courteau, Gilles Defac, le fameux directeur du Prato, Mireille Desideri qui vient d'expliquer sa présence dans le collectif et l'exposition de l'artiste dans sa vitrine au 46 rue Baudimont, La Forge, Iberia Lebel, Jacques Leclerc K, Olivier Michel, Françoise Morel et Sol Chine. Ça, c'est des entrées libres, c'est gratuit. Et maintenant qu'on est déconfiné, profitez-en. N'hésitez pas à bouger. Il y a aussi le collectif d'artistes qui ouvre ses ateliers avec Héloïse Kovlart, j'ai oublié son nom, mais il y a aussi Vincent Vimard, il y a aussi Martial Rossignol qui est au premier étage et elle va faire un petit atelier d'animation et j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans son atelier. Je vais vous faire écouter la rencontre que j'ai eue avec Héloïse dans son atelier au-dessus de la Galerie du Chat. Et donc pour accéder, c'est l'escalier qui est juste à droite de la Galerie du Chat et voilà, je me suis rentré, j'ai monté ces petits escaliers et j'ai commencé à discuter avec Héloïse. Héloïse, est-ce que tu peux expliquer ton rapport à l'art plastique en général, enfant, ou quels ont été les premiers éveils plastiques, soit dessin, soit sculpture, soit photo? Par quoi ça a commencé?
Vaste question, Pierre-Charles. Merci de me la poser. Ça me permet aussi de la répondre pour moi aussi. Je pense que l'art plastique, pour moi, c'est juste un outil pour m'exprimer avec le M apostrophe en majuscule. C'est-à-dire que c'est d'abord un regard qu'on tourne vers soi et pour entrer en relation avec son fort intérieur. Et ensuite, c'est un regard qu'on offre au monde. Voilà pour moi un peu ce que c'est l'art. Et les arts plastiques, c'est effectivement une ribambelle d'outils qu'on peut choisir, peinture, sculpture, sérigraphie, photo, cinéma. C'est un choix qu'on fait en fonction des idées qu'on souhaite exprimer. Et au début, ça a beaucoup été la photographie argentique. J'étais fascinée par le fait d'écrire avec la lumière. Ensuite, ça a été le cinéma, mettre en mouvement ces images lumineuses. Et en fin de compte, ce qui m'a vraiment beaucoup interpellée, c'était de comment mettre en forme mes émotions, donner forme à l'émotion. Et on sait très bien que le cinéma y arrive très bien. Et puis, il y a aussi un travail qui peut être un peu plus abstrait, un petit peu plus surréaliste, où là, on va du coup cerner des émotions, justement, qu'on a du mal à exprimer, où on n'a pas forcément les mots, mais on sait qu'il y a des choses qui nous traversent. Et ça peut prendre forme avec l'aide juste d'une couleur brute ou d'une forme un peu étrange.
Dans ta formation de plasticienne, d'abord étudiante, tu es passée par Paris 1 Panthéon Sorbonne en licence et master 2. Est-ce que tu veux expliquer ce parcours? Qu'est-ce que ça t'a permis d'explorer?
L'université, c'est un endroit où on est extrêmement libre. Il n'y a personne pour nous cadrer, il n'y a personne pour nous diriger, nous dire quoi faire. Donc ça a été une épreuve pour moi d'autodiscipline dans mes recherches. Donc j'étais assez libre et en plus de ça, c'est une grande gratitude que j'ai par rapport à cette formation. C'est d'avoir pu faire des recherches sur ce qui m'intéresse moi et non pas sur les recherches de quelqu'un d'autre. Ainsi, mon mémoire en art plastique, il tourne autour de mes propres recherches en photographie et cinéma. Que d'autres amis dans d'autres secteurs ont dû faire leur mémoire sur un sujet imposé. Donc là-dessus, il y a une grande liberté. J'ai choisi la fac par rapport aux écoles de beaux-arts pour cette liberté-là, et surtout parce que je passais mon temps en bibliothèque. Donc dans un temps, ça a été d'assouvir cette première facette de ma personnalité qui est très littéraire, qui adore lire, qui adore écrire. enfin que j'adore écrire, ça c'est un autre sujet. J'ai eu beaucoup de mal à écrire mon mémoire, bizarrement. J'aurais bien aimé le faire en images, par exemple, comme un étudiant des Beaux-Arts, mais c'était pas possible.
Par rapport aux différentes expériences que tu as pu avoir comme intervenante plasticienne ou médiatrice culturelle, est-ce que tu peux expliquer quel a été ton parcours jusqu'à nos jours ?
Oui, à travers mes études en fac, j'ai énormément fait de petits boulots dans la médiation culturelle. Donc c'est des CDD de 3 mois dans des expositions temporaires de musées. Puisque les musées ne cherchent des médiateurs que lorsqu'il y a des expositions temporaires. J'aurais adoré être un médiateur permanent de musée, mais j'ai jamais réussi à me créer ce poste. Et donc le médiateur, il sert de pont entre les œuvres et leur public au sein même de l'exposition. Parfois, on nous confondait même souvent avec les surveillants. Soudain, quelqu'un surgit comme ça, habillé de noir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce tableau ? Et les gens se retrouvent assez désemparés. Donc il y avait toute une attitude de brise-glace pour entrer en communication avec des gens qui sont souvent en introspection dans un musée, et en même temps créer un dialogue, créer une conversation autour de l'art, qui permet aussi de dédiaboliser un peu l'art, c'est plutôt de rendre accessible un art qui parfois peut nous laisser sans voix ou avec simplement le j'aime pas. Voilà, on essaie d'aller un peu plus loin et d'offrir aussi des clés pour comprendre les tableaux. Donc il y a un côté pédagogique et puis il y a un côté aussi où on ouvre à l'expérience des gens de leur propre vie, qu'on met en relation avec le tableau. C'est une vraie conversation. Et là, il y a une relation qui s'établit. Vous savez, le temps moyen d'attention des publics au Louvre, c'est 3 secondes par tableau. Mais quelle relation peut-il se passer en 3 secondes ? Donc le médiateur, il est là pour essayer d'étoffer un petit peu cette relation. Et puis il y avait aussi intervenante dans une école. Donc ça remonte à 2016. J'ai donc aidé des jeunes dans une école de communication à faire du cinéma sans caméra. Donc on est allé gratter la pellicule Super 8 et puis remettre en mouvement des images qui étaient donc fixes. C'est-à-dire qu'on déroule la pellicule, on écrit dessus et ensuite on la repasse dans le projecteur. Donc il y a une écriture de lumière qui est faite par le film qui a été filmé et ensuite on vient détruire, reconstruire cette première écriture à travers le gribouillage qu'on peut faire grâce au grattage pellicule. Le grattage pellicule, c'est une technique un peu expérimentale du cinéma qui m'a été offerte de donner une approche à des étudiants qui sont plutôt dans quelque chose de très formel, la communication graphique, voilà, qui ont ces codes et c'est pas du tout ouvert au surréalisme ou à l'abstrait.
Et on revient à la matérialité même de la pellicule de cinéma, c'est-à-dire qu'on enlève, on gratte, et éventuellement pour remettre peut-être des couleurs ou d'autres choses.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et tu as mis le mot-clé quand tu dis la matière du cinéma. Moi, j'aime dire le corps du cinéma, donc dans son aspect tangible, physique. La pellicule, c'est quelque chose dont on ne se sert plus aujourd'hui. Tout est dématérialisé. Et donc, moi, je retrouve cette pellicule pour retrouver le poids du corps du cinéma. Il fut un temps où un film pesait 200 kilos. Parce que les bobines pèsent quand même. Et donc j'aime me rappeler tout ça et surtout le transmettre à des plus jeunes.
Alors justement, on est dans la partie de ton atelier et tu as disposé devant nous des espèces de photophores ou de lumignons, ouais, c'est ça, où il y a justement ces pellicules 35 mm qui entourent des parties vitrées ou plastiques. Comment on pourrait décrire ces objets ?
La pellicule 35 mm, c'est du celluloïde. Donc ça ressemble effectivement à une matière plastique. Ces celluloïdes sont perforés en haut et en bas de trous, puisque dans la machine du projecteur, ça doit s'activer. Donc c'est enchaîné un peu comme une chaîne. Les images, 24 images par seconde. Et donc j'ai tissé les pellicules entre elles avec du fil de pêche. Et ces pellicules forment comme une tour d'image. Et cette tour d'image repose sur un socle en céramique que j'ai fabriqué aussi de toutes pièces. Donc il y a un espèce de liant entre la céramique solide, résistante, et la pellicule très fragile, très, très diaphane, qui laisse passer la lumière. Une espèce de relation entre la terre et les images.
Donc en fait, la céramique, c'est complètement opaque, hein, c'est dans la base. Donc on pourrait dire que c'est comme des fondations où il y a un soubassement de cet objet qui est comme un tube, hein, évidemment, et qui sert dans la partie haute, donc ces fils de pêche qui regroupent des pellicules, qui couent ensemble des pellicules, et qui forment ce cylindre qui lui devient, j'imagine, avec une bougie au centre. C'est ça ?
Oui, on va plutôt choisir des lumières LED pour que ça ne chauffe pas et offrir un maximum de puissance lumineuse puisque la pellicule reste sensible à la chaleur. J'aurais adoré que ce soit possible d'y mettre des bougies, une vraie flamme.
C'est inflammable surtout, la pellicule.
Oui, beaucoup moins quand même. Les pellicules d'aujourd'hui vont fondre plutôt que prendre feu. Mais c'est vrai qu'il fut un temps, notamment dans les années 30, où les pellicules étaient vraiment inflammables. Et alors pour dire un mot, ce sont des pellicules que j'ai sauvées de la destruction puisqu'elles étaient vouées à la poubelle. Donc je leur offre une deuxième vie en tant que décoration lumineuse et elles retrouvent la lumière, chose qu'elles n'étaient plus censées vivre.
Alors pour les prochaines portes ouvertes, donc ce samedi 2 et dimanche 3, je crois que vous avez tu mets en lumière en fait par en dessous les pellicules et on aperçoit en fait les pellicules. Alors voilà, j'ai pas le temps de vous passer l'intégralité de cette intervention que j'ai fait dans l'atelier de Héloïse, mais sachez que la porte ouverte seront de 10h à midi et de 14h à 18h pendant le week-end de porte ouverte. Et je suis de retour au studio avec les deux étudiantes en muséographie et Mireille, et qui me signalait que j'avais été un peu confus dans l'œuvre qu'elle expose à Bocken et le travail en tant que présidente d'Arts et Mutes. Donc je voulais préciser que c'était deux choses différentes et qu'il ne fallait pas confondre, n'est-ce pas Mireille ?
Oui, mais très juste.
Voilà. Je vous remercie beaucoup à tous. Je dois rendre l'antenne un peu en retard. Il y a les gens de variation qui ne sont pas contents derrière moi. Je suis désolé. Je vous remercie d'être venus, en tout cas ce soir,
merci
pour
beaucoup.
Parler de vos expositions respectives.
Merci à toi.
Merci.
Merci.